לנו יהיה למה גלסה אופיר טרולן ביטטה קלה לסייה ביטה L'envie de crever, on s'est croisé en volant sans lacet. Tu m'as sauvé au tout dernier moment. T'as pris ma peine, tu l'as jetée dans le vent. C'est une agonie qui me fuit lentement. Au fond de tes bras, je m'enfuis à chaque instant. Et si on s'abandonne, je voudrais que tu me promettes de jamais t'oublier, de jamais disparaître, garder ce qu'on s'est donné, de relire toutes mes lettres, de toujours avancer, il faut bien que je l'admette, ton sourire m'a sauvé. Je m'excuse pour ces mots trop durs à entendre et ces lettres impossibles à croire. Pour mes niaiseries et mon cœur tant que je t'impose dès le premier soir. Chaque matin j'ai mes problèmes dans mes bras et chaque soir je glisse autour de moi. Comme un rempart tu les renvoies quand tu me serres contre toi. Tu m'as sauvé au tout dernier moment. T'as pris ma peine, tu l'as jetée dans le vent. C'est une agonie qui me fuit lentement. Au fond de tes bras, je m'enfuis à chaque instant. À chaque instant. Et si on s'abandonne, je voudrais que tu me promettes de jamais t'oublier, de jamais disparaître.
La nuit du risque sur Radio Campus Paris.
Je m'appelle Marion, j'ai 29 ans, bientôt 30. Depuis que l'émission existe, de Man vs Wild de Bear Grylls, je la suis parce que j'ai toujours aimé cette émission. Moi, j'ai toujours rêvé, c'est très étrange, mais j'ai toujours rêvé de faire l'armée et je ne l'ai jamais fait. Pas pour la guerre, etc., mais j'aimais bien le côté entraînement sportif très intense, les parcours du combattant. C'est toujours un truc qui m'a attirée. Et Bear Grylls, étant un ancien marine un peu farfelu et un peu fou, qui partait dans un milieu hyper hostile et qui montrait des techniques pour survivre et voilà, comment manger, trouver de l'eau, s'abriter, etc., je trouvais ça assez passionnant. Et donc faisant aussi de la rando, tout ça s'est imbriqué et je me suis dit les risques qu'on prend en étant en rando, entre le climat, les trucs, les machins, les techniques de survie peuvent être largement utiles en fonction des aléas qu'on rencontre.
Je m'appelle Bear Grylls et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète. Ou avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort.
Et donc j'ai commencé à m'intéresser à concrètement en suivre. Ma première envie était de faire un stage de survie en pleine mer. J'aime pas les bateaux, j'aime pas être dans la mer, etc. Et du coup, ce stage de survie en pleine mer me paraissait utile. Parce qu'un accident est vite arrivé, et que voilà. Mais celui-ci est réservé aux, aux marins et aux militaires, etc. Donc il n'est pas très accessible aux personnes, aux particuliers comme moi. Et en plus, il est assez cher. Donc j'ai commencé à m'intéresser à d'autres stages de survie. Alors comme je suis quelqu'un d'assez extrême, je me suis aussi intéressée au grand froid, parce que le froid est quelque chose que je redoute beaucoup, et qu'en montagne particulièrement, et en plus s'il y a de la neige, ça peut devenir très dangereux également. Et j'ai jamais passé le cap, parce que pareil, dormir dans un igloo, en plus en étant claustrophobe, c'est quelque chose qui me fait pas mal flipper. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien le faire. Et du coup, je me suis rabattue sur un truc plus accessible au début, qui était un stage de survie classique, avec des techniques B.A.B.A. de survie, d'orientation, de soigner des plaies, chasser, s'orienter, se construire un abri avec pas grand-chose, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc ça, c'était dans une forêt entre la Picardie et l'Île-de-France. A priori, pas très hostile de prime abord, mais en fait, la forêt, c'est pas du tout accueillant comme endroit. D'autant que moi, j'y étais quand il pleuvait pendant... Le stage durait 3 ou 4 jours et il a plu pendant 3 jours. Donc, on a été trempés pendant 3 jours. Et bah, on dit souvent en survie que le plus compliqué, c'est le mental. Et effectivement, bah, la pluie, par exemple, et le fait d'être mouillé, d'avoir froid, ça met à rude épreuve le mental. Et du coup, on est beaucoup moins réactif sur plein de choses et moins taquet, etc. Et faire un feu avec du bois mouillé sous la pluie, c'est très compliqué et ça met à rude épreuve aussi. En même temps, c'est bien parce qu'on apprend à le faire et à s'en sortir malgré tout. Mais c'est compliqué.
D'après vous, qu'est-ce qui peut nous tuer ? La première chose qui nous tue, c'est l'accident. L'accident, il nous tue en 3 secondes. La deuxième chose, c'est le manque d'oxygène. On tient 3 minutes, grand maximum sans oxygène. Qu'est-ce qui nous tue en 3 heures ? L'hypothermie ou l'hyperthermie, mais l'hypothermie principalement.
Alors, il y a un instructeur qui est souvent un ancien militaire, jeune ou moins jeune, il y a tous les cas, ou alors un simple amoureux de la nature qui... Voilà, un peu le profil trappeur qui aime vivre avec pas grand-chose et fabriquer lui-même les choses. Enfin, il y a un côté retour aux sources très important chez les gens qui aiment la survie, de manière générale. Et donc, ça va être un instructeur avec des gens qui viennent suivre le stage de survie, qui sont, là pour le coup, dans le profil des gens qui suivent les stages de survie, ça va être des gens qui viennent avec des amis pour se détendre, pour faire un truc un peu exceptionnel, en famille ou voilà, des gens qui aiment la rando, des gens qui sont passionnés de Bear Grylls ou d'autres émissions de survie, puisque depuis il y en a eu beaucoup, et qui viennent un peu mettre à l'épreuve leurs limites, leurs techniques, leurs savoirs, etc. C'est un peu des scouts d'aujourd'hui, mais poussés à l'extrême. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, j'ai l'image des scouts, on est dans le jardin d'un château avec des canettes de bière et des tentes et on fait genre en survie. Les stages de survie, c'est quand même bien plus fort comme expérience, dans le sens où on vient avec un sac à dos qui contient un couteau, une gourde et un contenant. Donc ça peut être un petit gobelet en fer qu'on peut faire chauffer. Et en gros, c'est les trois basiques à avoir pour survivre. Et donc dans notre sac à dos il y a ça plus une bâche, enfin pas grand chose quoi. Ça dépend des stages qu'on fait, mais dans le stage que moi j'avais fait c'était quand même le premier qui est accessible, tu vois, c'est pas le plus fort dans l'expérience, donc t'avais quand même le droit de ramener pas mal de trucs. Donc tu viens en gros avec le minimum et l'instructeur pendant 3 ou 4 jours te fait des leçons sur les basiques. En gros, tu as des cours d'orientation, donc des cartes, des boussoles, les étoiles la nuit, s'orienter grâce à la mousse sur les arbres, aux toiles d'araignée dans la forêt, tout comme ça. Tu as des techniques de chasse, des pièges faits avec des cordes ou avec des bouts de bois, enfin vraiment le minimum d'instruments possibles. Donc on apprend à les faire, à les positionner aux bons endroits, etc. Des techniques de soins, du coup, de plaies, de si on se blesse, si on a mangé un truc qui nous rend malade, etc. On apprend tout ce qui est comestible en forêt, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est un des pires endroits, d'après moi, pour survivre. La montagne et même le désert, ça peut être mieux. Parce qu'en fait, dans la forêt, quasiment toutes les plantes sont toxiques. Donc, c'est très compliqué. Et si t'es pas un expert et que tu connais pas parfaitement ton terrain, c'est très compliqué parce qu'il y a des tas de plantes qui se ressemblent et il y en a une qui va être bonne et une qui va être mortelle. Donc, voilà. Moi, je fais de la rando bien souvent en dormant sous bâche. Donc, c'est-à-dire que t'as juste un bâton que tu trouves dans la nature et une bâche au-dessus de ta tête. Du coup, t'es très exposé. Donc, non seulement à la pluie, s'il y en a, et au climat de manière générale, c'est-à-dire le froid et tout, mais évidemment aux animaux. Donc là-dessus, j'ai une anecdote en stage de survie où du coup je dormais sous une clairière, j'avais très mal choisi mon endroit et j'étais en pente sur un caillou avec pas d'arbre au-dessus de moi pour me protéger, etc. Donc j'ai passé une nuit horrible, j'étais trempée, j'ai très mal dormi, enfin j'ai même pas dormi. Et au bout de mes pieds, j'avais mis mon sac avec mes réserves de bouffe. Et donc, y a eu des sangliers qui sont venus, parce que clairière, qui sont venus et qui ont grignoté le bout de mon sac pendant une heure. Et donc, pendant une heure, j'étais un peu stressée. Donc, le risque est tout le temps là. T'as juste le sentiment d'être un peu plus près si jamais il t'arrive quelque chose.
Bonjour, quel est le dernier risque que vous avez pris ?
Il y a 20 minutes exactement, j'étais devant le tribunal pour demander un dédommagement pour une école qui avait menti à ma fille pour l'inscription en disant qu'elle aurait le droit à sa bourse. Et en vérité, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Donc j'ai pris le risque d'aller jusque devant la justice pour demander le remboursement des frais d'inscription.
Eh bien c'est hyper simple, bon c'est pas très glamour, mais j'ai fait l'amour avec une fille sans contraception.
J'ai pris aucun risque, la marque des fabriques des VESA c'est la sécurité, donc chez nous il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas, mais on prend toutes les mesures pour qu'il y en ait.
À Paris je ne vois pas de risque, à part de s'égarer, par manque de, disons, d'informations spécifiques pour les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spéciaux.
En fait, mon dernier risque, c'est le médicament Levothyrox, parce que... parce qu'en fait, ça, c'est une nouvelle formule, et en fait, ça ne marche pas très bien. J'ai fait ma prise du sang, et le chiffre, en fait, ça augmente. Normalement, le chiffre doit descendre, et du coup, il n'y a pas d'ancienne formule qui sort. Du coup, ça me gêne, et en plus, je suis obligée de prendre ça tous les jours.
Alors je suis partie en voyage dans une zone pas forcément recommandée par le ministère des Affaires étrangères et je me suis fait agresser couteau sous gorge sur la plage.
L'agence Tourisme, comment accompagner la prise de risque des autres ?
Et donc on est de retour à la piscine Payron pour la soirée de clôture du Festival des Idées. On parle de risque ce soir avec Flore qui est avec moi, ça va ?
Toujours là.
Toujours là. Et puis on reçoit de nouveaux invités autour de cette table. Alors le premier plateau, on a fait une définition, on a esquissé une définition du risque. On va plonger maintenant au cœur du sujet en nous interrogeant sur la manière dont on va protéger les autres justement des risques inhérents, aussi bien à des activités en particulier qu'à la vie en société de manière générale. Alors si la prise de risque peut parfois ou souvent être valorisé aujourd'hui, montré comme un signe de courage. Quand on peut faire l'apologie, oui, et ben voilà, par exemple, notre technicien prend des risques en lançant des morceaux de musique comme ça, n'importe quand dans les émissions. Voilà, on va faire l'apologie de l'aventurier, l'apologie de ceux qui n'ont pas peur de prendre du risque. Mais il ne faut pas se leurrer. Nous vivons dans une société qui est extrêmement sécurisée, parfois même à tendance sécuritaire. Alors, comment on fait pour lutter contre le risque ? Comment on protège les citoyens des risques qu'ils pourraient encourir ? Est-ce qu'il faut user toujours d'une politique préventive qui viserait à atteindre une sorte de risque zéro ou est-ce que pas du tout et c'est pas du tout l'idée ? Est-ce que c'est peut-être même pas souhaitable d'atteindre ce risque zéro ? Ce sont les questions, entre autres, que nous allons nous poser ce soir, donc avec, dans ce deuxième plateau, avec, on va les appeler comme ça, notre agence Tourisme de ce soir. Donc, agence Tourisme, il y a donc parmi cette agence Jeanne Goujon, qui est éducatrice au CARUD. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce qu'est le CARUD ?
Bonjour, donc le CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et donc on accompagne les usagers de drogue, on les reçoit dans la Libra Adhésion, l'anonymat, et on leur distribue du matériel de prévention des infections. Donc ça c'est un peu la première chose et la première approche qu'on a avec eux. Et puis après il y a toute une partie d'accès aux soins, d'accès aux droits, de prévention etc.
D'accord. Alors, autour de cette table, il y a aussi Zéphir Sérène. Apparemment, vous avez quelques liens, vous connaissez les mêmes gens. Donc, vous travaillez, Zéphir, vous êtes aussi responsable donc, de prévention, pas aussi, mais vous êtes responsable de prévention. Vous travaillez donc en addictologie au centre Pierre-Nicole, c'est bien cela ? Tout à fait, et la Croix-Rouge française à Paris. Et vous êtes aussi co-auteur du livre dont on a parlé précédemment, « Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent » qui a été publié en 2017 chez Solar Éditions. J'ai bien résumé ?
C'est un bon résumé de ce que je fais.
Et puis en plus, Zéphir a été bénévole chez Radio Campus Paris, il faut quand même le dire.
Aussi, c'était une grande prise de risque.
Je ne sais pas si c'est vraiment une prise de risque, on essaiera de demander ça aux bénévoles tout à l'heure. Et puis autour de cette table, il y a aussi Ladislas Berthe, qui est assureur actuaire pour une banque nationale dont on ne citera pas le nom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est un assureur actuaire, Ladislas ?
Bonsoir, merci Bonsoir. De m'accueillir. Alors un actuaire, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui maîtrise et qui mesure le risque. Donc pour faire simple, dans l'assurance, c'est quelqu'un qui va calculer le prix d'un contrat d'assurance, combien ça coûte, combien d'argent ils font mettre de côté pour faire face au risque. Et globalement, c'est ça, c'est la mesure et la maîtrise du risque dans l'assurance.
Très bien. Alors, très bien, merci pour ce petit tour de table. Bon, c'est à peu près ce que vous faites maintenant. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est, alors, en gros, la lutte contre le risque, on pourrait appeler ça la prévention. Alors, quels sont les principaux dispositifs de prévention que vous mettez, vous, dans vos domaines, en place au quotidien ? Zéphir, Sérén ?
Nous, on a plusieurs dispositifs. Déjà, on va commencer par la prévention primaire, c'est-à-dire avant même de parler des risques que prennent les jeunes, c'est comment est-ce qu'on va développer les compétences psychosociales des jeunes pour pouvoir faire les choix les plus avisés, par exemple avoir un esprit critique par rapport à ce qu'ils vont rencontrer comme situation. Et donc c'est si on me propose de l'alcool, est-ce que je suis capable de dire oui, est-ce que je suis capable de dire non, et en fonction de quoi je suis capable de faire ces choix-là. Ça, c'est la première prévention. Ensuite, on va passer à un deuxième niveau, prévention secondaire, où on va parler à des gens qui sont dans des pratiques à risque, par exemple, et qui, là, on va leur dire par rapport à votre pratique, comment est-ce que vous pouvez modifier pour prendre moins de risques. Comme il le disait sur la table précédente, pour moins se mettre en danger. Et donc, on continue de pouvoir prendre des risques, mais en limitant la mise en danger. Et enfin, là, je passerai du coup la parole, je pense, à ma collègue sur les Carudes, avec de la réduction des risques, qui est le troisième volet de la prévention.
Eh bien, c'est à vous, Jeanne Goujon.
Oui, donc je connais un petit peu toutes ces histoires de prévention des risques, mais l'endroit où je travaille, c'est une scène ouverte très particulière avec une soixantaine de passages par jour de personnes qui s'injectent des produits psychoactifs. Donc on est vraiment la première scène avant les soins et dans l'injection, faire mieux que pire. C'est vraiment, on n'est pas du tout dans la prévention. Donc c'est essayer d'expliquer aux personnes qu'on accueille qu'il ne faut pas mettre trop de produits dans leur mélange pour ne pas faire d'overdose. Faire l'accompagnement à l'injection aussi pour que les personnes n'aient pas d'abcès. En gros, c'est de la distribution de matériel parce qu'on a vraiment beaucoup de monde et dans des conduites à risque.
Et pour vous, Ladislas Berthe ?
Nous, l'assurance globalement, ça a été créé autour du risque. Donc, on essaye de faire de la prévention pour que le risque se réalise le moins possible. Mais l'assurance globalement intervient une fois que le risque a été réalisé, une fois que le risque a été
concrétisé.
Exactement. Et donc, on intervient après pour justement minimiser l'impact du risque.
Les personnes qui ont...
Sur les gens. Si vous avez des gens, par exemple, en bateau et qui se mettent en commun, une personne qui a un accident, un groupe de personnes se met en commun pour que la personne où le risque a été avéré soit indemnisée par ce risque-là.
Très bien. Alors, on a fait un tout petit tour de table pour démarrer un peu ce deuxième plateau. J'ai oublié de présenter, parce que je suis vraiment pas très sympa, nos deux co-animateurs sur ce plateau. Inès, on a entendu tout à l'heure certaines de ses réalisations. Bonsoir, Inès.
Bonsoir.
Et puis Thomas, qu'on entendra aussi tout à l'heure dans une chronique. Ça va, Thomas ?
Ça va, ça va.
Voilà. Et bien voilà, maintenant, le plateau est lancé. On y va, on se lance, on se jette à l'eau. C'est parti. Flore, je crois que tu as une question.
Ouais, moi, je me posais une question. Vous évoquiez les questions de faire mieux que pire, finalement. À partir de quel moment est-ce que les gens qui viennent à vous arrivent ? Comment est-ce qu'ils viennent à vous ? Est-ce que c'est vous qui faites qui circulez, qui faites des maraudes, ou est-ce que c'est eux qui entendent parler du Carud et qui viennent librement vous voir? Et je vous pose également la question, Zéphir Sérène.
Donc pour le Carud dans lequel je travaille, il y a, comme je disais tout à l'heure à Zéphir avant que l'émission commence, des terrains autour où la drogue n'est pas très chère, c'est un petit peu à la demande, donc c'est un peu la première raison pour laquelle les personnes viennent. La deuxième raison, c'est qu'on est référent sur trois villes de Seine-Saint-Denis, et donc on est l'endroit où il y a des seringues gratuites et distribuées de manière quasi illimitée. Et c'est aussi un accès aux soins. On a en ce moment une vague de Géorgiens qui arrivent et qui sont atteints de l'hépatite C. Et donc, comme on propose un accès aux soins avec tout un parcours de santé, ils viennent pour cette raison-là.
Est-ce que, justement, ils ont conscience de ces risques-là quand ils arrivent, ou est-ce qu'ils sont dans une autre dynamique? Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cet accompagnement?
Alors, nous, on a un accompagnement qui est un petit peu différent dans le centre dans lequel je travaille, puisqu'on travaille avec des adolescents. Et cette population, donc les jeunes, on va dire 12-25 ans qu'on rencontre, eux, ils n'ont pas de demande face à la prise de risque. C'est plutôt généralement des personnes tierces, c'est-à-dire des parents ou des intervenants, éducateurs, etc., qui vont les accompagner dans cette démarche-là. Parce que remettez-vous tout simplement à la place d'un adolescent, c'est-à-dire quand on était jeune, on ne va pas demander à ses parents « Tiens, ce soir je vais me bourrer la gueule et puis je vais peut-être rentrer en prenant la voiture, c'est une prise de risque, qu'est-ce que tu en penses ?» Quand on est jeune, on ne se pose pas cette question-là, donc on ne va pas faire la démarche d'aller voir quelqu'un pour qu'il nous parle des risques qu'on prend. Par contre, ils acceptent tout à fait de prendre de l'information et d'écouter des gens quand on vient leur parler. Du coup, nous, on est plus dans une démarche d'aller vers, c'est-à-dire que vraiment, on doit se déplacer vers le public, que ce soit en milieu scolaire ou dans la rue ou ailleurs, là où ils se trouvent.
Est-ce que vous avez pu observer que l'arrêt de la consommation de drogue ou de stupéfiants pouvait comporter autant de risques ou autant, enfin, pouvait comporter des risques comme la consommation elle-même?
L'arrêt de la consommation de produits comporte des risques suivant le niveau de consommation auquel est arrivée la personne. C'est-à-dire que si on parle d'une personne qui est alcoolodépendante, l'arrêt total et brutal de la consommation est dangereux pour sa santé. Du coup, il va être une personne qui va accompagner un alcoolodépendant va justement l'aider à faire les choses par étapes. Pareil pour des consommations d'héroïne ou de produits de ce genre.
Alors, Ladislas Berthe, vous évoquiez tout à l'heure que vous étiez actuaire et que vous étiez dans le calcul de risque. Ce calcul de risque, vous le calculez pour le client ou pour l'assureur? Et finalement, qu'est-ce que le risque limite au-delà duquel on se dit il faut prendre plusieurs assurances convergentes? Enfin, est-ce que vous êtes aussi dans une dynamique de calcul du risque et d'essayer de faire moins que pire, ou c'est une logique un peu différente?
Ça dépend des risques. Par exemple, les complémentaires santé, tout le monde a une mutuelle, on essaye de faire énormément de prévention pour que les gens consomment moins. Parce que c'est plus du risque, c'est souvent devenu un produit de consommation aujourd'hui, la santé par exemple. Et c'est une différence qu'il y a avec le vrai risque. Le vrai risque, c'est l'imprévu. Et la santé est devenue un produit de consommation. Les gens, quand ils vont se faire faire des lunettes, ils prennent une monture Gucci. C'est pas de l'assurance, c'est pas du risque. Vous avez un risque de mal voir, vous n'avez pas un risque de vous acheter une monture chère.
Il y a le fashion faux pas, c'est un risque quand même. Quoi.
C'est pas un risque, justement. Par exemple,
c'est un péril, on l'a vu tout à l'heure.
Aujourd'hui, en France, pour pouvoir assurer quelque chose, il faut qu'il y ait un aléa, il faut qu'il y ait un risque. On n'a pas le droit d'assurer quelque chose qui n'est pas imprévisible. On peut assurer le bris de talon de chaussure, par exemple. Vous allez vous casser une chaussure parce qu'il y a un aléa, il y a un vrai risque, il y a un vrai imprévu. Et on peut pas ne pas assurer ce qui n'est pas risqué. Après, comment on assure? Globalement, c'est des statistiques, c'est que des probabilités, et ça marche avec le groupe, avec la communauté, avec la mutualisation. Plus il y a de gens, plus vous minimisez le risque. La meilleure manière de maîtriser le risque, c'est le partage, c'est de le partager. Et plus vous avez de monde, plus vous maîtrisez votre risque.
Mais alors justement, est-ce que, enfin, on le voit arriver dans des pays hors de France, cette question de l'individualisation de la prise de risque, où on va indexer les complémentaires santé, le prix et le coût des complémentaires santé sur la manière dont se comporte l'individu. C'est-à-dire il faut qu'il mange bien, qu'il fasse du sport, qu'il boive pas trop d'alcool, qu'il fume pas, et que s'il fume, bah, il va payer un peu plus cher que les autres. Est-ce que du coup, en France, on tendrait vers ce type-là de schéma, ou est-ce qu'au contraire, on préfère réfléchir au niveau global de, justement, on parle de collectivité, de communauté, et donc de ne pas regarder l'individu en tant que tel, ce qu'il fait lui dans ses pratiques.
La communauté, c'est le principe même de l'assurance. C'est comme ça que l'assurance a été construite. C'est justement partagé entre individus. Aujourd'hui, l'assurance, c'est devenu un métier, c'est devenu un business. Et le fait de... Vous avez une personne qui fume. Bah, par exemple, si vous allez faire un prêt immobilier et que vous voulez vous assurer contre le décès, si vous empruntez un certain montant d'argent, vous allez faire des tests. Est-ce que vous fumez? Vous allez faire des tests de sanguin pour savoir si vous avez du cholestérol ou pas. Parce que justement, votre mode de vie altère la nature même du risque. Et donc, il faut prendre en compte une...
Il faut prévenir les auditeurs de Radio Campus Paris qu'il faut qu'ils fassent attention si vous voulez faire des emprunts immobiliers.
J'ai un petit exemple, justement. J'ai une amie qui a fait un emprunt, qui a arrêté pendant 2 semaines avant de faire le test. Donc, je ne donnerai pas son nom, mais pour pouvoir avoir un taux d'intérêt plus bas.
Oui, parce qu'en fait, à la base, le risque, c'est tout le monde est égaux devant le risque. C'est-à-dire que je vais prendre le décès, qui est un des risques les plus simples, et tout le monde fait face à une égalité extrême face au décès. Si tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde a le même risque de mourir. Après, il y a des facteurs qui sont aggravants, qui fait qu'ils doivent être pris en compte dans la communauté.
Les cadres et les ouvriers n'ont pas la même espérance de vie.
Exactement.
Donc il y a quand même un risque plus grand de mourir pour un ouvrier que pour un cadre.
Le risque de mourir est exactement le même. La différence, elle se situe sur l'âge de la mort.
Après,
les 100% des personnes qui ont vécu sont mortes.
Jusque là.
D'accord avec cette
situation. À part quelques exceptions.
Si vous parlez des ouvriers et des cadres, après, c'est le facteur sociétal qui va venir en compte. C'est-à-dire qu'un ouvrier, via son statut, va avoir une vie sans doute différente, un rythme de vie différent. Et c'est cette vie-là, le fait qu'il va sans doute peut-être... Il y a des gens qui vont boire ou fumer, etc., qui va influer sur ce risque-là.
Alors, vous êtes sans doute dit, mais qui est cette voix qui sort de nulle part, cette voix grave et magnifique? Ben, c'était Émile qui s'est installé à côté de moi et qui a pris comme ça la parole. Et donc, il va nous proposer, justement, il parle du travail pas pour rien, puisqu'il va nous proposer justement une réflexion sur les prises de risque au travail, puisque c'est quelque chose, finalement, que nous vivons presque tous. Allez.
Oui, Mélanie est... Je dois dire que, allez, je fais une petite entrée en matière solennelle, parce qu'il y a un discours derrière la vitre qui est en train de se tenir, donc d'une certaine façon, je lui ferai écho. Mais je suis assez ému d'être face à Zéphyr et à tes côtés, Mélanie, parce que c'est un peu l'équipe de Dessine-moi un mouton sur plusieurs générations qui est là. Puis en plus, je prends la place de Flore, qui a repris l'animation de l'émission. Donc, moi, je vais vous parler, alors ce sera une chronique semi-écrite et semi-orale, un petit peu comme au néolithique, où... on était entre la civilisation de l'écriture et celle de l'oralité. Donc, je fais une chronique néolithique, si ça ne vous dérange pas, sur l'essor du risque social, de la couverture par l'assurance maladie du risque professionnel d'accident du travail. Ce n'est pas du tout sexy comme formulation, mais en réalité, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec la loi de 1898 sur les accidents du travail. Entre 1750 et 1850, en Europe occidentale, la société a changé de visage. Cette période, qu'on appelle parfois l'ère des révolutions, voit se superposer des bouleversements profonds dans les ordres politiques et économiques. Pour le dire vite, l'ordre politique s'est détaché d'un pouvoir aristoclérical et lignagé pour reposer davantage sur la représentation élective parmi une catégorie plus étendue d'individus. Alors, petite nuance toutefois, cela n'inclut pas encore ni les femmes ni les pauvres, puisqu'on est dans des régimes censitaires et masculins. Tandis que l'ordre économique s'est défait de sa structure communautaire en corporation de métiers pour s'organiser en entreprises qui puisent leurs ressources humaines sur un marché du travail et délivrent leurs produits et services sur un marché des biens ouverts au libre-échange. C'est pas que le marché n'existait pas dans l'Ancien Régime, mais c'était pas l'institution majoritaire de la vie économique, qui était la corporation. Le nouvel ordre économique repose en particulier sur la concentration des travailleurs dans des usines, où ceux-ci doivent manipuler des machines potentiellement dangereuses. Des machines à vapeur, des fraiseuses, des fours dans la sidérurgie. Ces manipulations sont intensives et répétitives. Le travail ouvrier se trouve ainsi soumis à un niveau de danger important et inconnu du monde rural. C'est pourquoi le premier 19e siècle va laisser le travailleur industriel particulièrement démuni face aux accidents qu'occasionne son activité. Si un accident survient, le principe en vigueur est celui de la faute et le cadre juridique celui du code civil. Cela veut dire que c'est à l'ouvrier de faire la preuve que son patron est responsable de l'accident. Il doit pour cela souvent engager un procès à l'encontre de son employeur, ce qui s'avérera considérablement dissuasif et entraînera la non-indemnisation d'à peu près 80% des accidents du travail au cours du 19e siècle. C'est des estimations, puisque les ouvriers sont découragés par le prix et la durée de la procédure. Donc, face à cet état de fait, le mouvement social de la deuxième partie du 19e siècle, celui de la deuxième révolution industrielle, celui de l'essor du mouvement communiste, va réussir à promulguer la loi du 9 avril 1898, qui introduit la notion de risque professionnel et impose aux patrons, à l'époque uniquement dans l'industrie, d'indemniser les accidents du travail indépendamment du contexte dans lequel ils surviennent. Alors commence la partie orale de la chronique. Je voudrais dire que cette loi est une véritable révolution. Peut-être qu'à l'époque, ils n'en avaient pas conscience, mais le principe que venaient d'introduire les législateurs de la Troisième République, sous l'impulsion de députés qui étaient des ouvriers, en particulier d'un député qui s'appelait Nadeau, c'est le principe de la cotisation sociale pour... c'est-à-dire du prélèvement sur la valeur économique d'un montant, d'une somme qui va être allouée non pas au salaire, non pas au bénéfice de l'entreprise, mais à la couverture d'un risque, le risque accident du travail. Or, aujourd'hui, la sécurité sociale est organisée sur ce principe. Les cotisations sociales, qu'elles soient patronales ou salariales, pour les accidents du travail, c'est uniquement patronal, mais pour le risque maladie, pour le risque vieillesse et pour le risque maternité, c'est des partages entre cotisations des salariés et des employeurs. Bien, ce principe est à la base du système qui nous gouverne aujourd'hui et qui fait que environ un tiers du salaire est socialisé. De la valeur ajoutée est socialisée et allouée à la couverture des risques sociaux que sont d'abord les accidents du travail, ensuite la maladie, la vieillesse et la maternité. Donc je voudrais dire que la loi pour les accidents du travail de 1898, elle est d'une certaine façon la pierre angulaire de la construction de notre système de sécurité sociale. C'est pourquoi je trouve que ça valait bien une chronique dans cette émission consacrée au risque.
On est tout à fait d'accord avec toi. Merci pour cette chronique néolithique sur une loi qui, finalement, n'est pas si néolithique que ça. Merci beaucoup, Émile. On va faire une petite pause musicale, justement, parce que de l'autre côté de la vitre, je crois qu'il y a un DJ set qui se lance. Alors nous, on va vous envoyer un peu une autre musique, puisque on n'a pas pu résister. Ça sera L'amour du risque des Texans, BO donc de la série éponyme que vous connaissez tous. Vous allez pouvoir chanter derrière votre poste de radio. Nous, en tout cas, on va chanter ici autour du plateau radio. Vous êtes toujours à la piscine Payron sur Radio Campus Paris. C'est la nuit du risque.
L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, justicier milliardaire. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie du gros gangster. Jonathan Hart, Jennifer Hart, jouent leurs accoups, sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, Jennifer Hart, les risquent tout de la justice et de l'amour. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. L'amour du risque, c'est la passion explosive, la mort, le feu de l'éclair. L'amour du risque, c'est le danger sans limite que cherchent les deux milliardaires.
En direct de 21h à 2h sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris.
Et on continue avec justement un risque dont on a dernièrement beaucoup entendu parler, à l'écran notamment avec le film 120 battements par minute. Un risque inutile et pourtant si courant, celui de faire l'amour sans se protéger, au sens propre comme au figuré. Une chronique anti-risque par Léa sur un morceau d'Alessandro Cortini, Perdonare, extrait de son dernier projet. Avanti.
C'est bien connu, le risque est plus élevé la nuit. Et pour cette nuit du risque, laissez-moi vous parler d'un plaisir dangereux auquel on s'est tous au moins une fois essayé, faire l'amour sans se protéger. Puisque l'amour, il suffit d'une nuit pour en souffrir, et ce serait con d'en mourir. Il suffit d'une rencontre, d'un regard, d'un instant pour avoir envie de tout lâcher et aller de l'avant. Il suffit d'une parole, d'une phrase, d'une discussion pour que s'emballe en nous la machine à frissons. Il suffit d'un contact aussi pour nous marquer à vie. Et il suffit d'un rapport physique pour tout foirer. Tout ça parce que le but, en mettant de côté ce bout de latex, c'était de ne pas gâcher un moment qu'on voulait être kiffant et pour lequel on était surex. Ben alors les enfants, on oublie les leçons du passé ? On oublie qu'une contamination est si vite arrivée, qu'une maladie sexuellement transmissible peut si facilement être refilée ? C'est marrant, hein, entre guillemets, on s'en fout. On a passé les deux dernières décennies à en prendre plein les oreilles avec des acronymes inquiétants comme VIH ou SIDA. Tout ça pourquoi ? Pour ne même pas faire un aller-retour en bas de chez soi, tenter de faire fonctionner le district de capote qui s'y trouve là-bas avant de retrouver son doux, sa douce et le la faire rêver. C'est sérieusement ça le turfu ? Ah non, 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 là, il y a de l'abus. Comme pour la syphilis ? Oui, cette petite maladie vénérienne digne de grands romans du 19e. Oui, vous savez, celle qui refait son apparition depuis le début du millénaire. Fantastique, non ? C'est pas un peu anxiogène, ce genre de nouvelles ? Dans le genre farfelu, après syphilis, il y a aussi hépatite, condylome, herpès, mycose, blénorragie, chlamydia, etc. Des noms sympas à poser qu'au Scrabble, quoi. Il ne manquerait plus que le préservatif oublié dans un contexte hétéronormé et était le seul moyen de contraception envisagé. Et panique à bord, c'est rendez-vous obligé en pharmacie le lendemain pour annihiler toute probabilité du seul concept se résumant à deux lettres identiques, bébé. Pourtant, ça fait du bien de s'aimer sans penser que ce sera risqué, en toute simplicité et légèreté, sans se demander si c'est à faire ou pas, et juste se laisser aller. C'est beau de penser que rien ne peut nous arriver, qu'on est invincible et puissant, de se sentir vivant, de savourer le présent sans se soucier de ce qui pourrait arriver, en imaginant le pire comme impossible possibilité. Ah, le risque de faire l'amour sans se protéger. Il existe, il est réel, au sens propre comme figuré. Quand on rencontre quelqu'un, on a envie de se donner corps et âme, si possible en entier, sans armure ni bouclier. On fonce tellement tête baissée qu'on oublie parfois de prendre le temps, justement, de faire une pause pour continuer à avancer sans danger. Et puis bim, excès de vitesse, accident. C'est dommage, le voyage aurait pu être agréable et charmant. Et à la place, on en ressort légèrement heurté ou même complètement fucké. C'est dommage, oui, parce que l'amour est censé nous élever, nous aider à nous construire, pas nous faire tomber ou nous détruire, enfin je crois. Et encore moins nous faire mourir, enfin, ce serait vraiment dommage, quoi. Alors c'est le thème de l'année, de rappeler qu'on oublie l'essentiel, oui, je sais. Non, je ne fais pas la morale, j'imagine qu'aucun d'entre nous n'est très bien placé pour juger. Mais bon, si on pouvait éviter de se refiler des saloperies et ou de se faire du mal, ça changerait quand même sacrément la vie. Si on pouvait éviter de faire rimer plaisir avec mourir, ce serait vraiment, vraiment, vraiment magique. Pourquoi risquer de faire l'amour sans se protéger? Alors que le but c'est juste de se sentir vivant. Et si possible, de profiter sans souffrir le plus longtemps.
Voilà, donc on est revenu après cette intervention magnifique de Léa, c'est ça ? Tout ça. Donc de Léa, et donc on a parlé, c'est un magnifique poème qui parle de sexualité, et comment on met en exergue, donc comment on parle de sexualité dans la prévention de la prise de drogue ou de la prise ou de tout comportement addictif.
Comment on en parle? Très simplement, il faut aller droit au but. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens de sexualité, il faut pas tourner autour du pot. Il faut appeler un chat. La prise de risque sexuelle, bon, il faut quand même rappeler que c'est une nouvelle problématique. C'est-à-dire que c'est apparu plutôt dans les années 80, 90. Qu'on a commencé à faire des actions auprès des élèves assez tardivement, que comme la question même du VIH et du SIDA est en train de décliner, les crédits ont commencé à diminuer parce qu'on dit bah, finalement c'est presque derrière nous, et même pour les populations de jeunes étudiants, en fait, ils ont presque l'impression que cette prise de risque là n'existe plus et que demain il y aura un vaccin, du coup finalement c'est plus si dangereux que ça. Et donc il y a une baisse de la prise de conscience du risque lié à la sexualité, donc notamment non protégée. Et on a même, on entend même régulièrement des filles qui disent si le mec est, s'il est mignon et qu'il est propre sur lui, il a une chemise, etc. Bon, bah là je peux faire sans protéger parce que a priori c'est que c'est un mec clean. Voilà, pour donner un petit peu l'état des fois de la situation par rapport au risque.
Et dans le CARUD, du coup, comment vous luttez contre... Parce que c'est un des plus gros risques que tu disais tout à l'heure,
des
usagers de drogue, c'est donc les maladies qui peuvent s'entraîner.
Alors, les maladies, elles se passent beaucoup par l'injection parmi les publics usagers de drogue. Ensuite, par rapport à la sexualité, tout à l'heure, quand je t'en parlais, Thomas, c'était plutôt... par rapport aux conduites à risque qu'on peut avoir quand on est sous l'effet de produits psychoactifs. Après, quand il s'agit de faire de la prévention ou de la réduction des risques sur la sexualité dans un centre de réduction des risques, en tout cas dans celui dans lequel je travaille, ça reste assez compliqué. Donc on distribue des préservatifs, évidemment, de manière aussi illimitée. Mais on accompagne une majorité d'hommes avec qui c'est un sujet qui est assez difficile à aborder parce que soit les personnes sont pudiques, en plus il faut pensez aussi que l'effet du produit est souvent comparé comme supérieur à un orgasme, à l'effet que peut donner un orgasme. Donc c'est un sujet assez difficile à aborder. Après, on peut faire de la réduction des risques sur la prostitution. Mais c'est aussi quelque chose de compliqué parce que les femmes qui se prostituent, pour certaines, sont dans le déni de cette pratique. Donc ça peut être très compliqué.
Et la dépendance dans tout ça ? Comment ? Parce que quand, la première fois qu'on a parlé tous les deux, tu disais que ton métier, c'était même pas de, de lutter contre la prise de drogue ou contre la dépendance, c'était de minimiser ces risques-là. Donc, est-ce que toi, tu luttes contre, est-ce que tu essayes de soigner ces gens ? Peut-être, c'est aussi une question pour Zéphir. Comment vous luttez contre la dépendance ? Et je sais que Ladislas m'a parlé de dépendance tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on va faire un petit pont.
Alors, nous, avant de lutter contre la dépendance, si on revient sur la, la prise de risque, sexuelle notamment, c'est qu'effectivement, il y a plus de risques qui sont pris quand les personnes elles ont consommé, parce qu'il y a une modification de l'état de conscience de la personne. Et donc, c'est-à-dire que je prends un exemple très simple, c'est quand vous buvez un petit peu d'alcool, vous êtes ivre, vous êtes gay, vous êtes bien, et puis quand vous commencez à avoir une concentration un petit peu trop forte d'alcool dans le sang, vous mettez à avoir un raisonnement qui vous paraît logique à vous, parce que vous êtes bourré, mais qui n'est absolument pas rationnel. Et donc c'est là où vous allez prendre des risques assez inconsidérés, c'est-à-dire je donne l'exemple qu'on met dans le livre d'une personne qui n'est pas un adolescent, hein, qui est plutôt qui a plus de 20 ans et qui donc va fait une rencontre, a des rapports sexuels protégés une première fois, puis une deuxième fois, et puis comme il est en rade de préservatif, il lui en reste plus qu'un, et ben il décide de sauter pour un rapport, il enlève le préservatif, il se dit comme ça j'en garde un pour demain matin. Et en fait, le matin, ça lui paraît hyper logique et il se dit qu'il a réduit son risque d'avoir une maladie sexuellement transmissible. Alors qu'en fait, à partir du moment où il l'a enlevé une fois sur les 3 ou 4, et bah, c'est fini. Voilà. Et donc ça, c'est les premiers risques. Et déjà, en fait, on essaye de faire en sorte que les gens ils aient un réflexe presque automatisé. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait, on distribue des préservatifs dans les soirées. C'est pour que les gens ils l'aient dans la poche et pour pas qu'au moment où ils vont passer à l'acte, ils se disent « Ah, bah, j'en ai pas, mais bon, en fait, c'est pas grave parce que, vous voyez, là, ce soir, justement, la fille, elle a l'air bien et puis en plus, je la connais. » Et puis, tout un tas de raisons, en fait, qui n'ont aucune logique par rapport à la prise de risque réelle. Voilà.
Et donc du coup, l'idée, c'est que ça devienne obligatoire d'avoir une capote sur soi ou...
Non, l'idée, c'est que ça devienne automatique pour la personne parce qu'on peut pas rendre obligatoire. C'est comme si on disait... mettre le triangle dans la voiture ou le gilet de secours, ça va rendre obligatoire pour les personnes de conduire correctement. C'est pas ça qu'on veut. Par contre, ils l'auront dans la poche, ils vont y penser et ça va devenir un geste naturel que de mettre le préservatif ou de penser à en prendre avant.
D'accord.
De rebondir sur le sujet, c'est vrai que sexualité et assurance ou dépendance et assurance, globalement, c'est des choses très distinctes. Après, vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi il n'y a pas des assurances contre l'agression, contre le viol, contre l'addiction ? Pourquoi on ne pourrait pas s'assurer contre une éventuelle addiction, contre l'alcoolisme ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas assurable. Pourquoi ce n'est pas assurable ? Parce que c'est un facteur qui dépend de l'être humain. On ne peut assurer que des choses qui sont exogènes à l'être humain. Et c'est-à-dire que si demain, je vous mets une assurance contre l'alcoolisme, par exemple, vous faites un délirium très mince et on va vous assurer, ou une assurance contre le viol, une assurance contre l'agression, pourquoi ce n'est pas assurable ? Parce que si vous assurez ça demain, et d'une, les gens vont se servir du système pour créer de fausses déclarations, pour créer de fausses agressions, de faux viols. Et quelque part, ça va encourager l'acte en lui-même. Parce que la personne va être assurée, donc on va lui dire « mais c'est pas grave, parce que si je l'agresse, de toute manière, elle sera remboursée ». Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les gens qui brûlent leur grange, par exemple, ou qui brûlent leur bar, ou qui brûlent leur... C'est le vrai côté pervers de l'assurance, où les gens en profitent parce qu'ils partent du principe qu'ils ont payé pendant des années, et donc, du coup, ils vont brûler leur truc, ils vont brûler leur bien pour toucher l'assurance. Et si vous vous mettez à assurer ce genre de risque demain, eh ben, la victime, certes, elle sera indemnisée, mais de l'argent par rapport à ce genre de risque, globalement, c'est pas comparable. Et de deux, ça va, d'une forme, pas légitimer l'acte, mais dédramatiser la chose. Et quelque part, une fois que la chose devient assurable, c'est qu'on va partir du principe que c'est un risque qui vient de l'extérieur, alors que c'est pas un risque extérieur. C'est comme aujourd'hui, on n'assure pas le meurtre. Vous ne pouvez pas assurer le meurtre, puisque demain, des gens seront assez pervers pour gagner. Une personne qui est malade, par exemple, se fera tuer et ira prendre un contrat d'assurance. Parce que l'antisélection et le fait de tricher sur l'assurance est dans la nature même de l'être humain. C'est-à-dire que vous vous assurez, les gens essayent de tricher et de justement prévenir le risque ou le réaliser de manière...
Et cette perversion que vous évoquez, elle peut aller dans les deux sens, parce qu'arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'aux États-Unis, par exemple, si on a une assurance vie, on ne la touche pas si on est fumeur ou si on a une addiction qui est déclarée. Et il faut, quand on prend l'assurance vie au départ, déclarer quels sont les différents types d'addictions potentielles qu'on peut avoir. L'addiction au tabac est considérée comme une addiction au même titre que l'addiction à l'héroïne. Et on peut ne pas toucher l'argent ou devoir payer beaucoup, beaucoup plus cher si on est... accro à la cigarette, par exemple. Est-ce que c'est pas un effet retour de la perversion, c'est-à-dire où on veut minimiser le risque, enfin on veut minimiser le risque absolument, ce qui profiterait du coup davantage à la compagnie qui assure qu'à la personne assurée?
Après, je connais pas très bien le système américain, mais oui, aujourd'hui en France, par exemple, quelqu'un qui fume sera toujours assuré. Il peut payer plus cher sur certains contrats, certains ne font pas la différence. Il peut payer plus cher. Mais par exemple, aujourd'hui, on n'assure pas une personne pour la maladie qui est dans un état d'alcoolisme aggravé. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade chronique de l'alcool, on ne l'assure pas. Il y a plein de choses qu'on n'assure pas. On n'assure pas les guerres, on n'assure pas le terrorisme. Par exemple, les contrats sont construits d'une telle manière où le terrorisme, on ne l'assure pas, c'est écrit comme ça. Mais quand le terrorisme se produit en France, et bien tous les assureurs payent globalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'effet humain, il y a le fait humain. Mais vous ne pouvez pas assurer l'accident sur une prise de drogue parce que ce n'est pas exogène à la personne. La personne maîtrise son addiction et l'imprévu n'est pas vraiment imprévisible.
Alors, moi, je vais m'adresser aux individus que vous êtes dans la sphère privée. Quand on travaille dans la prévention des risques, est-ce qu'on doit être irréprochable en matière de risque ? Comment, en fait, on se prémunit de ses propres contradictions, ses propres goûts pour le risque ?
On prend tous les risques et on essaye tout. Ça, c'est la meilleure façon. C'est ce qu'aimeraient les gens auprès de qui on intervient. Ils aimeraient qu'on ait tout essayé, qu'on ait pris tous les risques.
Il faut tester pour protéger.
Voilà, et souvent ils disent, mais vous, est-ce que vous avez tout testé pour nous dire quels sont les risques ? Alors souvent, ce qu'on répond, c'est que... On dit, est-ce que le médecin, quand vous allez le consulter, est-ce que vous lui demandez d'avoir eu un cancer pour vous parler de votre cancer ? Non. On n'est pas forcément irréprochable et effectivement, on vient pas, je pense, au travail de la prévention de façon anodine. Et il y a forcément souvent des parcours, alors que ce soit personnel ou dans l'entourage, qui font que on va être attaché à ce cas-là. Alors je parle pour moi, j'ai eu dans mon entourage beaucoup de personnes qui ont consommé des produits. J'ai moi-même goûté au plaisir de l'alcool et je goûte toujours ce plaisir-là.
C'est dangereux pour la santé.
Il faut le consommer.
Le CSA nous demande de le dire.
Et il faut consommer, avec modération. Et en fait, c'est ça que j'ai appris aussi dans ce travail-là. C'est que pour pouvoir continuer à avoir du plaisir, il faut le faire les choses justement avec mesure pour pas arriver dans la dépendance. Et Olivier qui m'a précédé sur le plateau, je pense est venu à l'addiction, je vais révéler quelque chose parce qu'il a beaucoup aimé jouer aux jeux vidéo et donc c'est en partie pour ça qu'on parle des jeux vidéo dans l'ouvrage.
Jeanne Goujon, est-ce que vous voulez intervenir là ? Quels sont vous les risques que vous prenez dans votre vie quotidienne ?
Je ne veux pas parler des risques que je prends dans ma vie quotidienne parce que je ne sais pas qui écoute cette radio. Mais ça a fait écho quand vous avez posé la question à une situation dans laquelle je me suis retrouvée face à un monsieur que j'accompagne qui consomme en intraveineuse depuis des années, qui a eu un parcours de soins et qui est revenu en me disant qu'il consommait la cocaïne en sniff. Et donc je lui ai donné quelques conseils de réduction des risques sur les modes de consommation en sniff. Et je m'imaginais qu'il me prenait pour une sainte depuis le temps qu'on se connaissait. Et puis il m'a regardé, il m'a dit « Ah, mais quand même, tu t'y connais ». Je me suis dit « Bon, on va arrêter là la conversation ». Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui font écho, où une personne qui consomme du crack, et j'ai peu de connaissances en crack parce que c'est loin d'être le premier produit qu'utilisent les personnes qui viennent là où je travaille, à qui j'ai demandé de me faire une démonstration et qui me disait « Mais comment ça se fait que tu connaisses pas ça? T'es pas une ancienne fumeuse de crack ?» Donc voilà, c'est vrai que ça se, il y a toujours l'espèce d'ambiguïté entre le professionnel qu'on est qui accompagne des usagers de drogue et la personne qu'on peut être personnellement dans sa vie privée. Est-ce qu'on est des saints, on touche pas à une goutte d'alcool ni à un gramme de poudre, ou est-ce qu'au contraire on est ancien consommateur et qu'on connaît très bien les produits?
Et alors quand on est assureur, est-ce qu'on est soi-même bien assuré?
Alors pas spécialement, parce qu'on sait, on sait quelles assurances prendre et quelles pas prendre globalement. Mais après, à titre purement personnel, il y a une forme de déformation professionnelle dans mon métier, en tout cas, comme vous avez par exemple le militaire qui va passer sa journée à faire sentinelle, à surveiller les gens, il va avoir une forme de déformation professionnelle à avoir l'habitude de scruter tout le monde. Moi, mon métier, c'est globalement, quand j'ai un sujet, un risque, je dois prévoir tout ce qui peut se passer, absolument tout ce qui peut se passer, et ça crée une forme de déformation professionnelle dans votre vie de tous les jours, parce que vous avez l'habitude, sur n'importe quel sujet, à vous présenter l'intégralité de l'éventail de toutes les solutions possibles et inimaginables sur un même sujet, et sans jamais avoir la solution. Mais par contre, vous créez toujours cet éventail de solutions possibles et de risques possibles qui peut arriver, parce que vous êtes entraîné à ça, et ça devient, c'est pas invivable, hein, je vous rassure, mais c'est une forme de déformation personnelle.
Zephyr Seren.
La question qu'on se pose, c'est: est-ce que tu as menti à ton assurance?
Est-ce que c'était déjà, ça vous est déjà arrivé?
Oui.
Ah, bouh.
Merci, le scoop.
Pour payer moins cher, parce que je sais comment ça marche.
Alors voilà. Parfois, le mensonge a du bon aussi. Parfois, on dit que le risque paye. Vous pouvez le demander à n'importe quel exilé fiscal s'il préfère la prise de risque ou l'assurance de gagner plus sans trop en prendre des risques. Il y a peu de chances pour qu'il décide de jouer les aventuriers, n'est-ce pas Thomas?
Mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je voulais parler des Paradise Papers. Alors les Paradise Papers, si vous êtes un tant soit peu renseigné, vous avez tous vu les schémas sur tous les sites d'information qu'ont relayé cette affaire. Donc c'est très facile, c'est comment Bernard Arnault il peut acheter un avion en économisant 20% sur le prix d'achat. C'est extrêmement simple, 20% c'est qu'un exemple, hein, parce que c'est exactement l'équivalent de la TVA française, mais le pourcentage peut varier suivant le prix de l'acheteur. Donc, à base d'une succession de créations de sociétés écrans hébergées dans des paradis fiscaux aussi exotiques que le Luxembourg ou l'île de Man, en gros, en immatriculant son yacht ou ton jet privé à la Barbade, Flore, voilà.
Évidemment, la Barbade, c'est là que j'ai ma résidence tertiaire, parce que ma résidence secondaire est encore ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Ou les Bermudes,
tu évites de payer la TVA en France, même si toi, tu es française. Et si l'avion que tu viens d'acheter est français aussi. C'est très pratique. Il faut toute une liste de 6-8 sociétés écrans. Et donc, du coup, maintenant, on sait que la reine Elisabeth et la famille royale anglaise est impliquée. Apple, Nike, Xavier Niel, Steve Bannon, donc le léprechaun nazi de Donald Trump est impliqué aussi. Harvey Weinstein, des républicains comme des démocrates, Weird Bull, Total et tout un tas de célébrités dont on parlera un peu plus tard dans un petit quiz qui m'a inspiré tout ça. Donc, Applebee, la firme spécialisée dans l'optimisation fiscale au soleil qui a vendu le stratagème à tout ce petit monde, a déclaré que tout était légal, et c'est bien ça le problème, puisque tout est légal. Ce qui différencie ce leak des autres, comme les Panama Papers de l'année dernière, c'est bien que personne n'est en tort, tout le monde a utilisé des petits moyens de subtilité légaux et une armada d'avocats pour se prémunir de ce risque légal. Par contre, toutes les personnes impliquées sont exposés. Ils sont exposés, donc c'est un problème de communication. Et il reste à savoir si tu préfères passer pour un gros égoïste qui ne paye pas d'impôts plutôt que quelqu'un qui gagne de l'argent sans risque. Donc j'ai fait un petit test sur les personnalités. Donc il y a trois réponses possibles. Vous allez tous participer. Vous allez voir, c'est très simple. La réponse, c'est soit Grammy Awards, pour ceux qui ont gagné un Grammy Awards, soit Paradise Papers, pour les gens qui ont été... qui ont été donc impliqués dans ces Paradise Papers, ou les deux. Voilà, c'est très simple, il y a 10 petites questions, ça va être facile. Donc, Shakira.
Les deux.
Les deux, tout à fait, elle est citoyenne des Bahamas, bien qu'elle soit née en Colombie et qu'elle habite à Barcelone. Et ses parts totalisent au moins 31 millions d'euros. C'est pas mal, c'est pas mal. Rihanna.
Les deux.
Faux,
Grammy, tout à fait, parce qu'elle est née à la Barbade, c'est vrai, donc elle est citoyenne de la Barbade. Donc ouais. C'est, voilà, ouais, mais désolée.
Mais elle fait son argent aux États-Unis.
C'est vrai.
C'est la double nationalité.
C'est la facilité de la double nationalité.
Attention, on prend des risques ici. Attention, on prend des risques.
Il y a des verres qui se renversent. Justin Timberlake.
Non, il doit.
Grammy. Non, c'est un bûcheron.
Et non, les deux aussi, parce qu'il a acheté un golf aux Bahamas avec Tiger Woods, mais il ne savait pas.
Ah oui.
Il ne savait pas. Lewis Hamilton.
Les deux.
Ah ben non, Paradise
Papers.
Là, il
n'y a pas de Grammy, juste par Papers.
Mais non,
Papers.
Il n'a pas de Grammy Awards.
Pas de Grammy.
Il conduit des voitures.
C'est sa voiture qui a eu un Grammy.
Voilà. Mais il collectionne aussi les avions. Donc c'est triste. Adèle.
Les deux.
Grammy.
Ah, Grammy. Ouais. On ne touche pas à Adèle, attention. Oh. Adèle, c'est resté pur. U2.
Les deux.
22 Grammys pour U2, mais Bono. Bono, il a également acheté des actions dans une société maltaise qui a financé un centre commercial en Lituanie. Wow. Et il a dit qu'il ne savait pas.
Bah oui.
C'est pas associé à une œuvre humanitaire.
C'est ça. Jean-Jacques Hano.
Papers.
Oui, il a gagné un Oscar, mais il n'a pas gagné un Grammy. Voilà. Nicole Kidman.
Paradise Papers. Elle ne sait pas chanter, elle ne peut pas avoir gagné un Grammy.
Elle a fait un album. Mais elle n'a pas gagné de Grammy Award. Eminem.
Les deux.
Et Grammy.
Grammy.
Ouais, 15 Grammy, aucune optimisation fiscale.
C'est beau. Oh. Aussi.
C'est impur.
Et pour finir, Madonna.
Les deux.
Yes. Album de l'année en 1999 pour Rhea Flight. Merci Madonna.
Merci Thomas pour ce petit quiz. Flore, tu veux lancer la dernière question ?
Eh oui. Oui, alors j'aimerais vous demander, avant qu'on change un peu d'atmosphère, quel est le plus grand risque, soit que vous avez pris, soit que vous pourriez prendre, ou celui que vous ne prendrez jamais ?
À titre personnel ou professionnel ?
À titre très personnel. Après, vous pouvez n'avoir dans votre vie que votre travail, personne ne fera la différence. Zéphir, Sérène.
Faire un enfant.
Ok, donc ça veut dire que s'il y a une personne qui t'écoute, elle sera très contente de savoir.
Non, mais je m'adresse à tous les gens qui ont des enfants, tu vois, je dis ça c'est un vrai risque. Mais
non,
c'est
une
un
manière
beau
d'annoncer
risque.
Par la radio à ta meuf que tu ne veux pas lui faire d'enfant.
Je pense que c'est un des plus beaux risques, mais voilà.
C'est un grand risque, effectivement.
Moi je suis entièrement d'accord avec Zéphir, même si c'est pas d'actualité du tout. Le plus grand risque que j'ai pu prendre, c'est que je fais beaucoup de snowboard et j'ai pris beaucoup de risques. Le sang. Et ça peut faire peur.
Moi, j'ai déjà commis l'irréparable, j'ai un enfant. Voilà.
Merde.
Mais ça se passe bien.
Il n'y a plus de risque.
Voilà. Un risque que je ne prendrais pas, voyager, ça me terrifie.
Et toi, Thomas ?
Moi, c'est passé sur Radio Campus Paris.
L'irréparable est décidément commis à tous les instants sur ce plateau. Je vais vous remercier à tous les trois, nos invités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans peu de temps pour la dernière partie de cette soirée. Mais juste avant, nous allons écouter tout d'abord un témoignage de Tim qui joue au poker. C'est Jacques qui a été l'interrogé. Nous allons également écouter le témoignage de Foxon qui est rappeur. Et là, c'est Marthe qui a été l'interrogé. Mais juste avant, nous allons de nouveau écouter les morceaux préparés par des musiciens avec, je le rappelle, la contrainte de la très courte durée. Philippe, est-ce que tu aimerais nous dire un mot de ce morceau de Turc d'un jour ?
Oui, bien sûr. Ce morceau porte le titre énigmatique de OGDBM. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on va peut-être l'entendre. C'est un morceau du coup du duo Turc d'un jour, composé de Mathieu Turc et Philippe Jabour, deux musiciens basés à Paris. Pour faire le lien avec le risque, j'ai posé à Mathieu la question « Qu'est-ce que le risque en musique pour toi ?» Et il m'a répondu « C'est essayer de surprendre et de ne pas rentrer dans un moule. C'est de se lancer. »